Parti.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix Libre, l'émission de l'association Picassoft. Donc je suis Quentin, aujourd'hui on est avec Rémi et Stéphane de Picassoft et
bonjour.
On a le plaisir de recevoir Fabien Cazenave qui a notamment participé au développement du navigateur web libre Firefox et ça tombe bien puisque c'est le thème du jour. Bonjour Fabien.
Bonjour. Et bien, bonjour à tous les libristes.
Bonjour à toi.
Écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené vers ce navigateur web, et puis après on discutera un petit peu de ce que c'est justement.
Oui, bah en fait, c'était la fin des années 90, début 2000, c'était une époque où on n'avait qu'un seul navigateur qui était plus ou moins le standard de fait, puisque quasiment le seul qui avait, enfin, il avait quasiment toutes les parts de marché, c'était IE6. Et moi, j'avais rien à voir avec le monde du web à l'époque, mais je, dans mon activité de développeur indépendant, il fallait que je fournisse des documentations techniques. Je les faisais dans le seul format qui me semblait pérenne, c'est-à-dire HTML. Et pour ça, bon, bah, j'avais besoin d'éditeurs HTML libres, de navigateurs HTML libres pour pouvoir les déployer sur n'importe quelle plateforme. Et donc, je me suis intéressé à l'époque, ça s'appelait encore la suite Mozilla, puis Firefox. Après la session de Netscape, et c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans le milieu du logiciel libre, un peu par accident finalement.
Merci Fabien de cette première petite intro, je me permets de te relancer un petit peu, parce que t'as lancé des trucs mais qui sont limite d'une autre époque, tu vois. Donc Internet Explorer, Netscape, les années 90, juste tu nous redonnes un ou deux éléments de contexte sur cette époque, t'en as déjà dit deux mots.
Ouais, bah c'était une époque où on avait un système ultra dominant, c'était Microsoft Windows avec son navigateur Internet Explorer 6 à l'époque, et où en fait on avait besoin d'un navigateur un peu plus performant qu'il fallait pouvoir faire tourner sur d'autres systèmes. Et ben on avait guère le choix, il fallait passer par un navigateur libre qui était encore balbutiant à l'époque, à savoir Mozilla qui est devenu Firefox. Et c'est comme ça qu'il y a toute une communauté en France, en Europe, dans le monde, qui s'est montée pour développer, promouvoir, diffuser ce navigateur.
Et Mozilla, tu me dis si je me trompe, mais donc c'est hérité d'un autre truc qui s'appelait Netscape. Et il me semble que c'est né, enfin la transition entre Netscape et Mozilla est née quelque part en France, avec des gens comme Tristan Ito, Daniel Glassman, et toi ?
En fait, Netscape, oui, développait son navigateur. Netscape a été racheté par AOL, qui a finalement revendu. Et donc, en fait, il y a eu d'un jour au lendemain tous les ingénieurs de Netscape qui se retrouvent au chômage, en fait, enfin quasiment tous. Et une partie d'entre eux se sont dit bon, c'est pas grave, on a un navigateur qui est tellement bien qu'on va continuer à le développer en code source ouvert, en logiciel libre, et puis on verra après comment on arrive à se payer. Donc Daniel Glassman, l'ami Tristan Ito étaient des employés de Netscape à l'époque, Tristan avait continué du coup à travailler là-dessus, et a fondé Mozilla Europe, qui était à l'époque une association à but non lucratif, qui n'avait pas de lien juridique avec Netscape, ou même ce qui est devenu Mozilla après. C'était pour fédérer les passionnés qui voulaient contribuer du code ou de l'énergie, de manière générale, à ce développement-là. Okay. Moi, je faisais partie, en fait, de la communauté. J'étais un des plus volubiles, on va dire, sur la communauté Mozilla francophone de l'époque. J'étais un petit peu à cheval entre les deux. Je faisais un peu de développement, un peu de support utilisateur. Et on animait beaucoup d'ateliers pour les développements d'extensions, pour ce genre de choses-là. C'est comme ça que tout est parti un peu en France.
Ok, donc effectivement, ça c'était des débuts, comme tu l'as dit, fin des années 90, début des années 2000. Et puis l'étincelle est partie de là. Puis je crois que ça a bien fonctionné. Puisque autour de 2010, Firefox est passé de 0 à pas loin, je crois, d'un bon tiers de part de marché. Il était même pas très loin de rejoindre Internet Explorer à un moment.
On a même été devant Internet Explorer en France et en Allemagne pendant plusieurs années.
D'accord, ouais, c'est ça. Pas au niveau mondial, mais au niveau localement en France. Hein, ça avait dépassé la barre des 50%, hein, c'est ça ?
Et puis dans d'autres pays d'Europe, oui,
ouais.
Oui, tout à fait,
ouais. Ouais, donc c'est quand même une aventure assez impressionnante. Ensuite sont arrivés Google et les smartphones. Aujourd'hui, on est pareil dans les grandes lignes. Hein, c'est Chrome qui a pris à peu près 2/3 de part de marché. Firefox est passé sous la barre des 10%. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que selon toi, on est revenu dans une situation un peu de quasi-hégémonie comme celle qu'on a connue? Est-ce que ça pose les mêmes problèmes? Est-ce que tu as un avis un petit peu autour de tout ça?
Bah, on est revenu dans une situation hégémonique, oui, mais je suis tenté de dire qu'elle est pire qu'avant, parce qu'avant, on avait une situation hégémonique qui était techniquement très en retard sur l'alternative libre. Internet Explorer 6, à l'époque, était une catastrophe, il n'y avait pas d'onglet, ça ne tournait que sous Windows, les performances étaient pourries, le respect des standards du web était complètement à la traîne, il n'y avait pas de développement fait par Microsoft activement dessus. Et puis surtout, l'usage d'Internet à l'époque, ça n'était que, entre guillemets, un accès à l'information. Alors qu'aujourd'hui, Internet, c'est une plateforme, c'est la plateforme d'exécution de toutes nos applications presque. C'est l'endroit où on stocke toutes nos informations privées ou presque, malheureusement. Et donc aujourd'hui, la domination de Chrome, non seulement elle est difficile à bousculer parce qu'ils ont objectivement un très bon navigateur qui en plus fonctionne sur Windows, Mac, Linux, beaucoup de plateformes. Mais en plus, les enjeux sont bien plus critiques que ceux qu'on avait au début des années 2000. Et avoir une société privée qui contrôle tous ces canaux de distribution-là, et dont le modèle économique, contrairement à Microsoft, c'est pas de vendre du logiciel, souvent par l'artifice de la vente liée, mais bien de vendre nos données privées pour les monétiser sous la forme de revenus publicitaires, ça pose des problèmes qui ne sont pas juste techniques. Ça pose des problèmes sociétaux, voire politiques. C'est la situation est beaucoup plus difficile à mon sens.
Ouais, effectivement, on est passé de premiers enjeux qui étaient essentiellement techniques à des enjeux sociétaux. On reviendra là-dessus en fin d'émission avec notamment Rémi, mais tu pourras venir compléter tout ça quand on reparlera un peu de la question de Chrome, Chromium, etc. Pareil, anticiper peut-être un petit peu des choses dont on reparlera, tu utilises, j'imagine, quelques extensions Firefox, tu en as une ou deux favorites ou que tu as envie de mettre en avant?
Ah, il y a uBlock Origin, je pense que tout le monde connaît. Ça, c'est pas juste Firefox, c'est une extension qui est juste indispensable aujourd'hui pour naviguer sur Internet. Donc, à installer si c'est pas déjà fait. Mais bon, après, dans le métier, dans le civil, je suis développeur web. Donc, j'aime bien bricoler les pages web et surtout, j'aime bien personnaliser l'apparence des applications en fonction de mes besoins à moi. Donc, j'utilise beaucoup Stylish. C'est une extension qui permet de rajouter des feuilles de style par-dessus l'application web existante, et comme ça je peux personnaliser rapidement plein d'applications. Après, j'ai un plaisir un peu coupable, c'est que j'utilise beaucoup d'onglets, beaucoup trop, et donc j'utilise régulièrement, je bricole des extensions pour manipuler ma collection d'onglets.
Ok, bah merci pour ces Stylish, S-T-Y-L-I-S-H, c'était ça?
Stylish, ouais, ouais. S-T-Y-L-I-S-H, exactement.
Ok. Merci à toi. Il y a Rémi qui m'a soufflé une autre question que j'aurais dû te poser avant. En fait, elle enchaînait mieux, mais voilà, je la pose après. Tout ce que tu as dit là sur Mozilla a quand même globalement un positionnement de défense de la vie privée qui est assez visible, bien positionné au niveau des médias, au niveau de la communication sur le web. Et pour autant, donc qui est une alternative de fait à Google Chrome, encore une fois, on y reviendra. Et pour autant, le moteur de recherche par défaut quand on installe Firefox sur la majorité des plateformes, c'est Google Search. Alors je crois que c'est historique, mais est-ce que tu veux commenter aussi cette petite contradiction?
Bah en fait, ça date à une époque effectivement où Google ne faisait pas son propre navigateur et préférait financer Firefox pour avoir un navigateur libre, ouvert, pour faire fonctionner ses applications. À ma connaissance aujourd'hui, c'est Quant qui est par défaut en France, je dis peut-être une ânerie.
Je crois que ça dépend des plateformes.
Mais j'utilise DuckDuckGo. Enfin, il y a des navigateurs, il y a des moteurs de recherche qui sont beaucoup plus respectueux de la vie privée. Bon, j'aime beaucoup DuckDuckGo, Quant est très bien aussi. D'une manière générale, c'est pas juste une question du navigateur. Ce n'est quasiment plus d'ailleurs une question du navigateur. C'est beaucoup une question de nos usages. On a des usages qui sont centralisés. Et le vrai danger, il est là. C'est que une seule société à but lucratif peut avoir sur nous beaucoup plus d'informations que ce qu'on voudrait lui laisser. Et c'est à nous, utilisateurs, chacun dans notre coin, d'arriver à utiliser des solutions alternatives, moins centralisées, plus respectueuses. Et ça, ma foi, bah, c'est toujours un peu le même combat.
ouais.
entre ce qui est bénéfique pour tout le monde et ce qui est confortable à utiliser là tout de suite.
Bah là, effectivement, tu reviens au cœur des préoccupations de Picassoft. C'est des choses dont on a parlé dans l'émission précédente, notamment avec Frédéric Urbain de Framasoft, et sur lesquelles on aura largement l'occasion de revenir. Eh bien, merci beaucoup, Fabien, pour ces quelques échanges. Et puis, je crois que tu restes avec nous, donc n'hésite pas à intervenir sur la suite. Donc, on enchaîne avec Quentin qui va passer un peu sur le gris pour nous expliquer eh bien, finalement, c'est quoi un navigateur web. On voit à peu près tous à quoi ça sert. Hein. Ça sert à aller sur le web. Ça, je pense qu'on est quand même. Voilà, pour l'ensemble, on voit à quoi ça sert, mais on ne voit pas forcément bien comment ça fonctionne. Alors, un navigateur web, pour simplifier, hein, mais on peut poser que c'est un client HTTP. Et un moteur de rendu HTML. Et donc, on va approfondir un petit peu ça. Alors, commençons par la première partie. Un navigateur, Quentin, c'est un client HTTP. On a expliqué un petit peu ce qu'était un serveur la semaine dernière. Il y a un rapport entre les clients et les serveurs en informatique, mais également un peu comme au café. Hein. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils vont communiquer pour s'échanger des choses. Est-ce que tu peux nous rappeler cette histoire et nous expliquer un peu comment fonctionne HTTP ?
Alors effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, pas d'inquiétude, pas trop de technique, mais c'est important de comprendre un petit peu les insides, on va dire, du navigateur et de la communication web sur Internet. Donc pour rappel, un client, c'est tout simplement une machine. Ça peut être un smartphone, ça peut être un ordinateur personnel. Et un serveur est également une machine, un ordinateur, mais qui rend service, eh bien, justement, au client. Donc, d'où l'analogie avec le café. Donc ça, on en avait parlé de manière très générale sur l'architecture client-serveur. Mais dans le cadre des navigateurs web, eh bien, le navigateur, comme l'a dit Stéphane, est un client HTTP. Alors qu'est-ce que c'est HTTP ? C'est ce qu'on appelle un protocole, en d'autres termes, un langage, une norme informatique qui permet à un client, en l'occurrence le navigateur web, de demander à des serveurs web de lui envoyer des fichiers. Et ce sont ces fichiers qui constituent les pages web. Donc ça peut être tout simplement des fichiers de texte, des fichiers qui permettent de styliser la page, des images, des vidéos, ce genre de choses. Et donc quand on tape une URL dans un navigateur, donc une URL ça peut être par exemple à tout hasard picassoft.net, eh bien en fait on lui ordonne de demander des fichiers à un serveur. Donc comme je le disais, si on tape picassoft.net, eh bien on demande à notre navigateur web de récupérer des fichiers sur un serveur qui s'appelle picassoft.net. Celui-ci va nous donner une page qui s'appelle par exemple index.html et donc vous aurez l'affichage dans votre navigateur. Mais qu'est-ce que c'est finalement que ce... Je crois que j'anticipe, Stéphane.
En effet, donc tu viens... Là, tu as failli me voler ma question, donc heureusement, là, on l'a sauvé de peu. Donc effectivement, le navigateur demande des contenus au serveur. Le client HTTP demande des contenus au serveur HTTP, au serveur web. Le serveur lui renvoie ses contenus. Donc tu l'as dit, ça peut être différents types de fichiers. Mais c'est souvent des fichiers HTML. Hein. Donc par exemple, si on interroge picassoft.net/index.html, eh bien on va récupérer un fichier qui s'appelle index.html. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que le navigateur, eh bien, c'est aussi son boulot, c'est aussi d'afficher du HTML de telle façon que nous autres êtres humains, on arrive à le lire correctement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer vite fait comment fonctionne HTML ?
Oui, tout à fait. Effectivement, on a dit que un navigateur web était un client HTTP, mais aussi un moteur de rendu HTML. HTML, c'est un langage informatique de description, on peut le dire. Et en fait, ce langage HTML sert simplement à décrire la structure de la page. Donc typiquement, je vais dire, voilà, à cet endroit-là, je vais avoir un titre, et son contenu, c'est celui-là. À cet endroit-là, je vais avoir un paragraphe qui va raconter plein de super choses sur le logiciel libre. Et donc, le rôle du navigateur web, c'est de formater tout ça, de l'agencer et de passer d'un code HTML purement descriptif à l'affichage que vous aurez eh bien, sur la fenêtre de votre navigateur web.
Ok, on va pas rentrer dans les détails des différentes technologies. Il y a des technologies comme CSS, par exemple, qui servent également à la mise en forme, qui viennent en complément de ce que tu viens de décrire. En revanche, je voulais peut-être qu'on aborde un tout petit peu JavaScript, puisque ça fait partie des choses dont on entend souvent parler, et on aura certainement l'occasion également d'y revenir. Ça fait partie des questions aujourd'hui, enfin des endroits qui questionnent un peu plus, notamment la vie privée, ou les différents usages qu'on peut avoir. Tu nous dis un ou deux mots sur JavaScript ?
Alors en effet, comme je l'ai dit, HTML est un langage purement descriptif, mais qui dit descriptif dit aussi statique. C'est-à-dire que la page est en quelque sorte figée. Et aujourd'hui, vous le voyez sur les sites web modernes, eh bien, il y a plein d'éléments qui bougent, vous cliquez, ça réagit directement. Et tout ça est possible grâce à un langage qui permet d'ajouter du dynamisme qu'on appelle JavaScript. D'ailleurs, aujourd'hui, JavaScript est tout à fait omniprésent et c'est un sujet assez préoccupant dans la mesure où les pages deviennent de plus en plus grosses et exécutent énormément de programmes. Et d'ailleurs, je crois que Stéphane, de ton temps, JavaScript, ça existait sûrement pas.
Non, de mon temps, si l'informatique existait, hein, c'est ça Fabien, l'informatique existait déjà, hein, mais vraiment c'était embryonnaire, on programmait avec des cartes perforées et tout ça. Non, pas tout à fait, on n'est pas aussi vieux. Mais cela dit, je ne sais pas si tu veux commenter ça, Fabien.
En fait, c'était un grand débat à l'époque où effectivement, il y avait notamment IE6 qui était très, très pauvre en capacité CSS, donc on était obligé de faire du JavaScript pour des choses toutes simples, genre animer des menus déroulants. C'était à l'époque le summum du site haut de gamme, c'était un truc avec des menus déroulants. Ça faisait rêver tout le monde dans les années 90 ou 2000. Et alors que ça, en fait, on sait le faire de façon purement déclarative, donc légère à télécharger, légère à interpréter pour le navigateur. Et voilà, on savait faire des menus rapides à s'ouvrir sous Firefox, c'est chiant sous IE. Et à ça, s'ajoutait encore autre chose, c'est qu'on avait en gros 10-15% des utilisateurs qui n'activaient pas JavaScript. Soit parce qu'il y avait des politiques de sécurité dans les entreprises qui disaient ben, « JavaScript n'est pas suffisamment éprouvé pour qu'on puisse laisser du contenu s'exécuter à la volée », soit parce que tout simplement ça ralentissait beaucoup trop IE6, et donc des utilisateurs choisissaient de le désactiver. Et puis enfin, il y avait un problème d'accessibilité. La plupart des technologies qui permettaient aux malvoyants ou aux utilisateurs qui étaient atteints d'autres handicaps d'interagir avec leur page web ne fonctionnaient pas avec JavaScript, tout simplement. Donc on était à l'époque obligé, c'était fortement recommandé si on voulait un site bien indexé, d'avoir un site qui fonctionnait sans JavaScript. Et enfin, les moteurs de recherche comme Google inspectaient les pages web sans interpréter JavaScript. Donc si le contenu était généré par JavaScript, comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart des applications web, eh ben, votre site n'existait tout simplement pas sur les moteurs de recherche. Donc il n'existait pas du tout.
C'est ça, donc là on a un peu tu t'es revenu un petit peu sur l'origine. Je pense que ça vaudrait, on se réservera peut-être un jour une émission pour parler plus généralement. Il y a des mouvements aujourd'hui de low-tech qui préconisent oui. Effectivement de revenir à des structurations plus simples, d'imaginer que ce qu'on a gagné à un moment en termes, entre guillemets, de facilité d'usage, et bien finalement c'est des choses plus compliquées à contrôler, moins performantes, qui peuvent même éventuellement poser des questions de consommation énergétique. Mais effectivement, ça nous emmènerait probablement un petit peu plus loin, donc on se garde ça et peut-être on te réinvitera avec plaisir Fabien à ce moment-là. Il y a un dernier point que je voulais aborder avant qu'on repasse un peu sur la discussion, notamment Firefox versus Chrome, puisque c'était quand même un petit peu notre objectif aujourd'hui, c'était parler du W3C. En effet, ce que on vient de voir, là qu'on a des langages, HTTP, HTML, JavaScript, CSS, etc. Et en fait, tous les navigateurs parlent les mêmes langages. Et on peut se demander comment est-ce qu'ils font pour se mettre d'accord, ces navigateurs, parce que c'est pas forcément tous des copains. Hein. On a vu qu'il y avait Microsoft, Google, la fondation Mozilla, etc. Ce n'est pas forcément des gens qui ont les mêmes intérêts. Donc, qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'ils arrivent à se parler quand même entre eux ? Quentin, tu nous...
Ouais, carrément. Bah, effectivement, on peut dire qu'ils sont pas... c'est peut-être pas les meilleurs amis, mais en revanche, ils ont quand même tout intérêt à faire en sorte que leur navigateur soit capable d'afficher correctement ce que les autres navigateurs sont aussi capables d'afficher. Et donc c'est en particulier grâce à un organisme qui s'appelle le W3C, pour World Wide Web Consortium, qui réunit les parties prenantes du web et qui se mettent d'accord sur ces langages, voire qui créent ensemble de nouveaux langages. Donc c'est un organisme qui a été créé en 1994, et donc on peut dire que c'est la naissance du web en quelque sorte. Et c'est cette même idée de standard interopérable. Interopérable, c'est le mot qui va désigner le fait que les langages fonctionnent sur différents systèmes et produisent les mêmes résultats. Donc c'est cette idée de standard interopérable qui permet à des machines différentes sur des réseaux différents de se parler avec des logiciels différents. Donc de la même manière que tous les navigateurs aujourd'hui du moins, parce que ça n'a été pas le cas pendant extrêmement longtemps, arrivent à se mettre à peu près d'accord sur la manière d'afficher, de faire fonctionner les sites de la même manière, eh bien, ils interprètent également le HTTP, ils parlent tous ce langage de la même manière. Et heureusement pour nous. Donc on reparlera sans doute aussi dans une prochaine émission de l'importance des standards interopérables, des normes interopérables, des logiciels interopérables, etc. Des formats de données interopérables, voilà.
Merci Quentin. Donc dans cette première partie, on a montré à peu près, expliqué à peu près comment fonctionnait le navigateur. Donc un langage qui sert à récupérer des fichiers, encore une fois pour faire très court, HTTP, un langage qui sert à les afficher HTML, des trucs autour JavaScript, et une logique de standardisation qui permet à des logiciels différents de parler les mêmes langages et de faire en sorte que l'ensemble du web puisse fonctionner à une échelle mondiale avec des gens différents, des réseaux différents, des logiciels différents. Etc. On va revenir un petit peu maintenant peut-être sur la thématique un peu plus militante de cette émission. On pourrait dire qu'un de nos objectifs, c'est de faire en sorte qu'une partie des utilisateurs, peut-être à l'issue de cette écoute, passe de leurs usages avec probablement Google Chrome à l'usage de Firefox. Donc on va peut-être commencer par ça. Est-ce que finalement, c'est quoi le problème avec Google Chrome ? Fabien nous en a donné quelques éléments au départ. Mais finalement, on a presque un logiciel libre. Quentin, tu veux prolonger un peu là-dessus et nous expliquer c'est quoi finalement le problème de Google Chrome ?
Le problème de Google Chrome, il est double. La première chose déjà, c'est que Google Chrome n'est pas un logiciel libre. Donc, une partie en tout cas de Google Chrome n'est pas un logiciel libre. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe dedans. Il est édité par évidemment une entreprise tout à fait lucrative dont on a parlé des problèmes auparavant. Le problème n'est pas qu'elle ne soit lucrative, mais qu'elle soit lucrative grâce à la revente de nos données, comme l'a dit Fabien, à travers les annonces publicitaires.
On peut dire une des premières différences fondamentales qu'on a, encore une fois, chose qu'on a déjà évoquée, entre Chrome, Google Chrome et Mozilla Firefox, c'est que le code de Mozilla Firefox est 100% libre.
Absolument.
Donc on peut voir exactement ce qui se passe, ce qu'il fait, alors que ce n'est pas le cas du code de Google Chrome.
Tout à fait. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de scandales, semi-scandales avec Chrome, qui collectaient des données sans le consentement explicite de l'utilisateur et qui, lorsqu'on le lit à son compte Google, envoie l'ensemble de l'historique des recherches, voire même de ce qui est tapé à Google, ce qui pose évidemment les mêmes problèmes de vie privée que d'habitude. Donc ça, c'est un premier problème qui est inhérent à l'ensemble des logiciels privateurs qui fonctionnent sur un modèle de publicité. Voilà.
Alors, cela dit, il existe une version qui s'appelle Chromium, qui est donc une version, elle, 100% libre de Chrome. C'est-à-dire que c'est le code de Chrome expurgé des parties non libres. Dans cette version, les défauts que tu viens de mentionner disparaissent. Pour autant, on pense que ça reste une assez mauvaise idée d'utiliser Chromium, ou disait que Chromium, qui est un navigateur hégémonique. Pourquoi ? Je t'ai un peu donné la réponse de la question, mais je te laisse peut-être développer.
Non, je vais te laisser répondre, mais globalement, je pense que le mot hégémonie résume bien la chose. C'est-à-dire qu'en effet, du point de vue des libertés fondamentales des logiciels libres, Chromium répond à l'ensemble de ces libertés, mais Chromium est omniprésent dans beaucoup de navigateurs, que ce soit Google Chrome ou par exemple Microsoft Edge qui est récemment passé à Chromium. Et donc ça pose évidemment la question de la diversité et du pouvoir politique et technique des ingénieurs derrière Chromium. Stéphane, peut-être que tu veux rajouter quelque chose.
Et finalement aussi de la notion de choix de l'utilisateur dont on parlait déjà la semaine dernière, où on a expliqué plusieurs fois que la liberté dans le logiciel et dans le service, c'était aussi et avant tout la liberté du choix de ce qu'on voulait utiliser.
Oui, ce que tu as soulevé, Quentin, je ne sais pas si Fabien voudra compléter également, mais c'est qu'on a un même code informatique qui est effectivement commun. Une grosse part de code informatique est commun aujourd'hui à la grande majorité des navigateurs, donc à l'exclusion notamment de Firefox. Mais on a ce risque à un moment de contrôle du code par une seule organisation.
Alors oui, effectivement, il y a un danger qui est pas juste théorique, qui est même très concret, parce que le W3C dont vous avez parlé à l'instant, le principe de base de cet organisme de normalisation, c'est que pour que quelque chose devienne un standard, il faut qu'il y ait au moins deux implémentations différentes. Donc il faut qu'il y ait deux moteurs de rendu différents qui fassent le taf. Alors jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, il y avait outre Google avec WebKit qui est devenu Blink, que vous appelez Chromium là pour le navigateur autour, il y avait le moteur de rendu de Firefox, il y avait celui d'Opera et il y avait celui de Microsoft Internet Explorer. Aujourd'hui, Opera est passé à Chromium, Internet Explorer passe à Chromium, donc aujourd'hui il n'en reste plus que deux. Il reste Firefox et Chrome, pour simplifier. Or, même si le code est libre, il peut servir à faire fonctionner du code propriétaire. L'exemple que j'ai en tête, c'est que Google, pour des raisons qui leur appartiennent, ils avaient un projet derrière, voulait pouvoir faire exécuter du code compilé sur le navigateur. Donc on en revenait à la grande époque que peut-être seuls des vieux dinosaures comme Stéphane et moi-même connaissions encore, c'est-à-dire ActiveX, où on avait un conteneur, la page web, on fait un énorme trou dedans, et dans ce trou, on fait tourner un logiciel la plupart du temps privateur, en tout cas compilé, sur lequel on ne peut pas avoir d'informations sur ce qu'il fait exactement. Et ça, c'était la solution que poussait Google. Et s'il n'y avait pas eu un autre moteur de rendu à l'époque qui disait non, on a une solution qui est plus interopérable qu'on va pousser à la place, qui est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle WebAssembly, c'est-à-dire qu'on compile vers un subset de JavaScript qui est optimisé pour la performance et qui au final donne les mêmes performances que ce que faisait Chrome avec son extension propriétaire, eh ben, on aurait aujourd'hui un web avec du contenu qui n'aurait été compilé peut-être que pour Windows, peut-être que pour Windows ou Mac, mais qui très probablement n'aurait jamais fonctionné sur des plateformes libres. Donc même avec un navigateur dont le code source est 100% ouvert, ça ne suffit pas à ce que les usages puissent garantir l'interopérabilité avec tous les systèmes. Et ça, c'est le rôle vraiment fondamental de Mozilla là-dedans, c'est-à-dire de fournir une implémentation alternative pour pouvoir tirer les standards vers quelque chose de toujours interopérable, ce qui n'est évidemment pas le cas d'une société à but lucratif.
Merci Fabien de cet exemple très concret. On a un peu confondu deux termes, hein, effectivement. Tu as eu la gentillesse de pas nous le dire comme ça. Donc je ne pense pas qu'on arrivera à corriger au montage. Donc je corrige directement. On a fait la confusion entre Blink, qui est le moteur effectivement de rendu qui est commun à l'ensemble des navigateurs, et Chromium, qui est une des versions libres de l'usage de ce moteur commun, notamment à Chrome, Chromium, IE, etc. On avait encore un ou deux points qu'on va aborder, donc peut-être un peu plus avec Rémi qui s'est fait discret jusque-là. On voulait et peut-être revenir aussi sur cette question de simplicité qu'on a commencé à évoquer, qu'on aura sûrement l'occasion de retraiter dans le cadre de nos différentes émissions. La question que je te pose, Rémi, c'est qu'est-ce que ça change en fait de faire ce que j'ai appris à faire quand j'utilisais un navigateur dans la préhistoire, c'est-à-dire en fait on ouvrait un navigateur. Puis quand on voulait trouver quelque chose, enfin quand on savait où aller plutôt, on avait tendance à taper directement une adresse web dans la barre de recherche. Donc on connaissait des adresses comme picassoft.net ou mozilla.org ou utc.fr. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau des usages, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent systématiquement par une recherche, qui ne prennent plus la peine de taper aucune URL et qui passent systématiquement par une recherche. Donc un moteur de recherche, on l'a vu, donc un serveur, comme Google Search, alors éventuellement une alternative comme QuantumDuckDuckGo qu'on a déjà cité. Mais qu'est-ce que ça change in fine ? Est-ce que c'est un souci ou pourquoi est-ce qu'on a envie de parler de ça ?
Oui, alors tout simplement déjà, dans un premier temps, passer par un navigateur, par un moteur de recherche, pardon, ça veut dire passer par un intermédiaire. Donc passer par un intermédiaire qui, c'est lui donner des infos, donc des informations personnelles, par exemple, sur ce que vous cherchez, pour ensuite faire de la collecte de données, les revendre, etc. Vous lui transférez aussi du pouvoir, puisqu'il a la possibilité de choisir pour vous ce qui va vous afficher. Par exemple, ça peut aussi être en fonction de vos préférences, en fonction de votre localisation, en fonction de statistiques sur la population. Et donc, finalement, utiliser directement une URL, c'est en partie garder de l'indépendance et du pouvoir. Donc évidemment, hein, on ne peut pas connaître l'intégralité des URL du web par cœur, donc on est quand même obligé de passer par un moteur de recherche quand on cherche vraiment quelque chose et qu'on ne veut pas accéder directement à une ressource qu'on connaît. Mais sinon, accéder directement à une ressource par son URL, c'est aussi moins de requêtes, donc moins d'intermédiaires. Ça simplifie l'accès à l'information, il est direct et maîtrisable. Et puis enfin, on peut ajouter que l'impact environnemental est plus faible, puisque tout simplement, vous faites moins de trafic sur le réseau, il y a moins de données stockées, donc finalement, vous consommez moins d'énergie.
Encore une fois, je pense qu'on aura, en tout cas, on aimerait bien avoir l'occasion de revenir un jour sur ces idées de simplification un peu. Et donc pour ça, ben on essaiera aussi de mettre en exergue à chaque fois qu'on le peut, toutes les fois où il se passe un peu des trucs compliqués, même si on ne s'en rend pas forcément compte. On va passer au quiz. On voulait peut-être parler aussi un certain. Enfin, je vais juste mentionner qu'il y a tout un écosystème d'extensions qui existe autour de Firefox qui permettent de faire des choses assez intéressantes, notamment autour de ces questions-là, hein, de savoir quel site communique avec quel site, quelle est la complexité qui est derrière. Mais c'est un sujet assez riche et je pense qu'on se donnera le temps de retraiter ça une autre fois.
Peut-être un ou deux noms quand même très rapides. Donc Fabien a mentionné tout à l'heure uBlock Origin pour bloquer donc la publicité intempestive sur les sites web, et puis sur ce dont tu parlais, le contrôle des interactions et des données échangées. On pourra citer par exemple uMatrix, qui permet via une interface assez simple de choisir quels sont les contenus qu'on autorise ou pas.
Ok, ouais, tu m'en as fait une démonstration tout à l'heure, c'est pas très radiophonique mais très intéressant. On verra comment on peut présenter ça. Quentin, est-ce que c'est toi qui nous présente le quiz cette semaine ?
Eh bien, allons-y. Ce sera un quiz un petit peu sous forme de teaser pour une prochaine émission. Vous avez sans doute entendu parler du fameux cadenas qu'on voit dans la barre d'URL lorsqu'on consulte certains sites web. Et ce cadenas est associé à une extension, un autre protocole qui ressemble à HTTP, qui s'appelle HTTPS. Et donc la question du jour, c'est est-ce que si je consulte une adresse qui utilise le protocole par HTTPS, donc qui commence par https://au lieu de HTTP, eh bien est-ce que, réponse 1, la communication est sécurisée, c'est-à-dire que les informations échangées entre le client, donc le navigateur, et le site web, le serveur, est-ce que ces informations sont chiffrées ou cryptées, mais c'est plutôt chiffré le bon mot. La communication est privée, réponse 2, c'est-à-dire que pour consulter le site web, il a été nécessaire de préalablement entrer un mot de passe. Réponse 3, la communication est publique, c'est-à-dire que le S ne change pas grand-chose au niveau de la sécurité, donc tout le monde peut toujours tout lire sur Internet. Et enfin, réponse 4, la communication est libérée, c'est-à-dire que les serveurs ne peuvent plus exploiter nos informations personnelles. Bien, et bien pour vous laisser le temps de réfléchir à cette question, nous allons lancer un magnifique morceau de musique sous licence libre qui s'appelle Song for a Song de Ivan Chu.
A song for a song. Gift in return for a gift. When the light shines through, my love for you echoes with the sound of the shifting sun. In each moment, in each note, there is a chance to love and to make music that echoes the world around us. My love for you echoes with the sound of the shifting sun. Like the sun, our perspectives shift. Just like the wind, some secrets are not hidden, but are embedded into the fabric of our reality, waiting to be discovered within the song. light shines through. A gift in return for a gift. A song for a song.
Ça suffit. De retour sur La Voix Libre après ce joli morceau, pour rappel, Song for a Song de Ivan Chou. Résultat du quiz, est-ce que tu veux, peut-être Fabien, à ton avis, quelle est la réponse à ce quiz ?
C'est un piège, on a peut-être perdu Fabien en plus dans le passage de la musique.
Il est fort possible. Stéphane, quelle est la réponse à ce quiz ?
Eh bien, le S de HTTPS vaut pour sécuriser. Ça veut dire, et le mot n'est pas forcément très bien choisi, en fait, effectivement, ça veut dire chiffrer. C'est-à-dire que les informations qui sont échangées sur le web, entre le client et le serveur web, eh bien, sont transformées de telle façon qu'elles ne peuvent être lues que par... la personne qui les consulte. Donc il y a effectivement donc, le client ou le serveur. C'est ce qui permet par exemple de transférer des informations confidentielles comme un numéro de carte bleue. Mais donc pour cela, il faut bien que l'on soit derrière le protocole HTTPS.
Voilà. En revanche, peut-être juste ajouter que c'est bien du coup le contenu qui est sécurisé et que cela ne permet en rien de naviguer de manière privée sans qu'il soit capable de savoir quel site vous visitez. Ça reste public, c'est vraiment le contenu échangé qui est sécurisé.
Donc oui, il faut bien insister que ce n'est ni privé au niveau du site de destination, donc un indiscret intermédiaire pourrait tout à fait savoir que vous êtes un affreux libriste qui visite le site de Picassoft, et ça ne vous rend pas non plus anonyme, c'est-à-dire qu'on peut toujours remonter évidemment jusqu'à votre ordinateur.
Et ça ne protège pas non plus des virus, parce que parfois on entend ça. Ok, bah pour conclure, on va donner au moins deux liens. Donc on a parlé de Firefox Mozilla, donc le site mozilla.org à consulter pour télécharger Firefox, télécharger des extensions, se renseigner sur tout ce qui tourne autour de l'écosystème Mozilla. Et peut-être pour les informaticiens, les développeurs web, il y a un excellent site qui s'appelle MDN, Mozilla Developer Network, à l'URL donc https://developer. En anglais, developer.mozilla.org. Et là, vous trouverez énormément de ressources autour du développement web. Eh bien, on va saluer Fabien à distance, se saluer entre nous et se donner rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et bonne semaine.